Alors, élevons la voix tous ensemble. Là où vous êtes, vous parlez à Dieu et vous lui présentez ce jeune couple et ce temps de méditation. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée dans laquelle, Seigneur, tu nous accordes encore une fois le souffle de vie. Merci, Seigneur, d'être avec nous, de nous bénir par ta présence et de nous bénir par ta grâce. Cette journée est aussi, Seigneur, une journée importante dans la vie de Joanie et d'Alex, qui vont aujourd'hui connaître, après ces 9 mois d'attente, qui vont connaître la petite Eva. Donc nous te demandons, Seigneur, d'être au contrôle de ces prochaines minutes et de ces prochaines heures, que l'accouchement, Seigneur, se fasse sous le contrôle de ta main toute puissante, que tout se passe bien, que tout soit facilité par ta main, ô Dieu, et que tu permettes, Seigneur, tant à maman qu'à bébé, Seigneur, d'être en sécurité et d'être renouvelés, Seigneur, dans leur force. Aujourd'hui, Seigneur, on te demande d'être avec eux, d'entourer, Seigneur, toute l'équipe médicale qui les assiste, et que ce ne soit pas les médecins ni même les infirmières qui soient au contrôle, mais que ce soit simplement toi, Seigneur, qui veille sur ce jeune couple et ce jeune bébé qui arrive. On veut te présenter aussi, Seigneur, Mathéo, qui vient d'arriver auprès de Catherine et de Daniel. Merci, Seigneur, pour cette autre naissance. Merci pour ce bébé. Merci pour l'accouchement, pour maman et pour bébé qui se portent bien. Veuille leur donner tout le repos dont ils ont besoin et que tu gardes ta main, Seigneur, sur eux trois. Donc, Seigneur, on te présente aussi ce temps de méditation. Veuille nous diriger, nous conduire, veuille nous parler ce matin, et que ta grâce nous soit accordée pour saisir ta voix, pour saisir, Seigneur, le chemin que tu ouvres devant nous, et pour y marcher, Seigneur, avec assurance, en destination, Seigneur, de ta maison, en destination de toi. Donc, bénis nos frères et nos sœurs qui se sont joints à nous, et que ta grâce et que ta bénédiction restent et demeurent sur nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans notre passage de cette semaine, donc dans Luc au chapitre 15 et le verset 18 et 19. Luc 15, verset 18 et 19 que je lis pour vous. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je répète, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Que Dieu bénisse donc sa parole ce matin. Alors hier, on a commencé avec la toute première partie du verset 18, je me lèverai, avec le terme important en grec anisthémie, qui voulait dire remonter vers la position debout, qui voulait dire l'image de cet homme qui est couché au sol et qui se relève, cet homme qui a été abattu et qui, par grâce de Dieu, se remet de position debout. Et les 5 ou 6 points importants qu'on a vus, un, c'est qu'il nous faut faire le constat lorsqu'on n'est plus debout, qu'on ne l'est plus. Donc, arriver à dire, je ne suis pas dans l'état où je devrais être. Je ne suis pas dans la position dans laquelle je devrais être. Tout retour vers la maison de Dieu passe par ce constat important. Faire le constat aussi que les choses se doivent de changer, qu'on ne peut plus persister ou perdurer dans la voie qu'on a entreprise depuis un certain temps en s'éloignant de Dieu, mais qu'il nous faut maintenant prendre cette décision que les choses doivent changer. Mais de surcroît, cette décision que les choses doivent changer, encore faut-il prendre la décision que les choses vont changer. Parce qu'il y a des gens qui font le constat effectivement qu'ils ont besoin d'un changement, mais ils ne passent jamais à l'autre étape d'initier des changements, d'entreprendre des changements dans leur vie. Et le retour vers la maison, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Nos proches ne peuvent pas le faire à notre place. Dieu peut nous encourager. Nos proches peuvent tenter de nous motiver, de nous encourager aussi. Mais le seul qui peut faire cette décision, ou la seule qui peut faire cette décision, c'est moi, c'est vous, mon ami. Donc, quatrième point, prendre la décision de retourner à la maison, parce que de surcroît, se lever, on pourrait aller n'importe où. Mais l'important est donc de retourner vers la maison de Dieu, de retourner vers Dieu. Initier le changement, se démarquant de certaines choses, le retour à la maison, on ne peut pas retourner à la maison et amener avec nous les pratiques qu'on avait lorsqu'on était loin de Dieu. Inévitablement, il y a des choses desquelles on devrait être sevré, il y a des choses desquelles on devra couper, hein, ou on devra abandonner ou laisser derrière nous lorsqu'on revient à la maison de Dieu. Et enfin, il faut, et c'est là la partie glorieuse, le terme anesthémie, c'est aussi se lever comme un roi, comme un prince qui se présente pour la toute première fois. Et c'est l'image de ce père qui remet des souliers, qui remet une bague, qui remet un manteau tout à fait unique sur les épaules de son fils de retour à la maison et qui le rétablit comme un fils de la maison. Et si nous sommes fils et filles de la maison de Dieu, nous sommes donc des princes dans le royaume de Dieu et nous sommes donc dans cet appel à revenir à notre position initiale ou à notre appel initial d'être enfant de Dieu et d'être des princes et des princesses devant notre Père céleste. Aujourd'hui, on continue avec la deuxième phrase, « J'irai vers mon Père, j'irai vers mon Père. » Aller, c'est le terme poreuo, qui s'écrit P-O-R-E-U-O, P-O-R-E-U-O, et on voit ce terme-là 150 fois dans le Nouveau Testament, 154 fois pour être précis. Poreo veut dire se diriger vers un objectif, vers une destination, veut dire continuer un parcours entrepris. La première étape, on l'a vu hier, on se lève et on initie une démarche. Et la pensée d'aujourd'hui, qui est le retour vers la maison de Dieu, qui est le retour vers notre Père, le retour vers Dieu, ou pour une première fois, peut-être pour certains, un déplacement de notre vie de pécheur, notre vie d'iniquité, où on se destine maintenant à la rencontre avec notre Dieu. Un prophète dans l'Ancien Testament disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et j'espère que ces quelques méditations qu'on a cette semaine te permettent toi aussi de te préparer à la rencontre de ton Dieu. On ne sait pas quand cette rencontre face à face va avoir lieu. Est-ce que ça sera dans quelques minutes pour certains? Est-ce que ça sera dans quelques décennies pour d'autres? Personne ne le sait, mais cette rencontre avec Dieu peut s'opérer d'un instant à l'autre. Et de surcroît à ça, on peut vivre aussi dans la présence de Dieu et inonder de la présence de Dieu. Et ce retour vers la maison, ce retour vers Dieu, et dans ce sens-là où je veux vivre en proximité de Dieu. David va dire dans le psaume 23 qu'il habitera tous les jours de sa vie dans la maison de l'Éternel. Et ça, c'est une occasion pour toi, une occasion pour moi, en cette semaine, de méditer comment je peux m'approcher de Dieu et rester collé à lui, ou comment, si je m'en suis éloigné, comment je peux revenir dans ses voies. Alors, le fait intéressant ce matin serait l'analyse du terme poreo, qui est composé par un préfixe et un suffixe, ou deux racines grecques. Le terme poreo qu'on a épelé tout à l'heure est divisé en deux. Le premier mot, ou la première particule, por, est issu en fait du terme grec poros, P-O-R-O-S, qui veut dire un passage, un chemin, un détroit ou un pont. Donc, un endroit un peu plus restreint qui nous indique le chemin à suivre, que l'on soit un paquebot, que l'on soit sur un cours d'eau, cet endroit étroit, ce passage, nous indiquait où contourner des obstacles pour nous rendre à destination. Mais ce qui est intéressant, c'est que poreo veut dire effectivement un passage et un chemin de par sa racine poros, mais son suffixe, la fin du terme euo, E-U-O, veut dire bien et beau. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que ce chemin est le bon chemin. Ce chemin que tu as entrepris hier, ce chemin qu'on a commencé à découvrir et à discuter hier, c'est le bon chemin. Et quand je dis le bon chemin, c'est qu'il n'y a aucun autre chemin. La Bible nous dit, et Jésus le dit de lui-même, « Voici, je suis le chemin et la vie. » Il est le chemin. Tous les autres chemins ne mènent pas à Dieu. Le seul chemin qui mène à Dieu s'appelle Jésus. Alors, lorsque tu as décidé de prendre ce cheminement, d'emprunter cette voie, ce chemin qui mène à Dieu, je dois te dire que tu es dans le bon chemin. N'aie pas crainte, ce chemin peut être parfois difficile parce qu'il est restreint, parce qu'il est resserré. Parfois, il peut être difficile de franchir parce que il est rempli d'obstacles, mais ce chemin est le bon chemin, le seul et l'unique bon chemin. Alors, si tu l'as entrepris, ne te décourage pas, n'abandonne pas. La destination n'est pas encore arrivée. La destination, elle arrive après, mais ce chemin est malgré tout le bon chemin. En fait, il est le seul chemin qui mène à la destination de la vie éternelle. Donc, je tenais ce matin à débuter en te disant, regarde le chemin que tu as emprunté si tu as pris la décision ce dimanche lorsqu'on a fait la prière. Si pendant cette période de confinement, tu as pris la décision effectivement de t'approcher de Dieu, c'est le bon chemin. Peu importe ce que les gens pourraient en dire, peu importe que ce ne soit pas à la mode, peu importe que ce ne soit pas in, que ce ne soit pas tendance actuellement, le chemin qui mène à Dieu est le seul, l'unique, le bon chemin. Alors ne te décourage pas, continue à cheminer. C'est le bon chemin parce que c'est la bonne destination. Un chemin peut être difficile ou peut être facile, mais l'important d'un chemin, c'est là où il conduit. Sinon, on fait juste se promener, ou sinon on fait juste errer d'un endroit à l'autre. L'important du chemin ici, c'est qu'il mène quelque part, et cette destination est la seule qui vaille. Quand le fils prodigue dit « Je me lèverai et j'irai », il dit spécifiquement qu'il va aller à son père. Et ce matin, cette destination, elle est pour toi et elle est pour moi, notre Père Céleste. Tous les autres chemins qui mènent, peu importe l'endroit, s'ils ne mènent pas à Dieu, s'ils ne mènent pas à notre Père Céleste, s'ils ne mènent pas à Jésus, ben ce chemin est futile et inutile. Donc oui, c'est le bon chemin, mais c'est le bon chemin parce qu'il mène au Père. Et je vais citer 5 choses pourquoi cette destination est importante et elle est bonne. Pourquoi il est important de retourner vers ton Père Céleste? 1, parce que c'est ton Créateur. C'est celui qui a pensé à toi de toute éternité et qui t'a conçu. Il sait comment t'es supposé fonctionner. Il sait comment t'es supposé opérer. C'est lui qui a pensé à toi depuis toujours. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fruit tout simplement de la rencontre d'un homme avec une femme, tu n'es pas le fruit de la biologie, tu n'es pas le fruit de l'anatomie humaine, tu es le fruit de la pensée de Dieu. Dieu savait que tu viendrais au monde et Dieu avait un propos et avait un objectif. Et le seul moyen d'avoir une vie qui sert à quelque chose, le seul moyen que ta vie ici-bas, que ton passage ici-bas serve à quelque chose pour l'éternité, c'est que tu aies mené cette vie ici-bas dans le plan initial que Dieu avait pour toi. Alors, il sait comment tu fonctionnes, il sait comment tu es supposé fonctionner, il sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez toi. Et puisqu'il est ton Créateur, il sait aussi comment changer, transformer et réparer ce qui ne fonctionne pas chez toi. Alors, voilà pourquoi il est dans cette première raison d'importance de retourner vers ton Père ce matin. S'il est ton Père, il est aussi ton premier protecteur. Quand on grandit, on a cette ritournelle qui dit que mon papa est plus fort que le tien, mon papa est plus grand que le tien, mon papa est plus intelligent que le tien, mon papa fait mieux les choses que le tien. Ça dure pendant un certain temps, puis après ça, bon, on réalise que notre père a aussi des failles. Mais quand on parle de notre Père céleste, il est effectivement le plus grand. Quand tu parles de ton Père céleste, il est effectivement le plus fort. Quand tu parles de ton Père céleste, il est effectivement le plus sage. Et voilà pourquoi je crois que Jésus, lorsqu'il va dire à ses disciples, voici comment vous devez prier, il va dire, notre Père qui es aux cieux. Et j'aime qu'il spécifie qui est aux cieux, non pas que, étant omniprésent, il ne remplisse pas l'ensemble de l'univers par sa présence, mais je crois que Jésus veut faire la distinction entre ce Père céleste et l'ensemble des pères ici-bas sur terre. Et je sais qu'il y a 2, 3 jours, on a fêté, dimanche en fait, on a fêté la fête des pères, et pour la plupart d'entre nous, on a rendu grâce à Dieu pour le Père que nous avons eu, pour le Père que certains ont encore aujourd'hui, d'autres sont partis dans l'éternité, mais pour ceux qui l'ont aujourd'hui, pour la plupart, on a remercié Dieu pour le Papa que nous avons encore aujourd'hui. Mais même ce Père que nous avons ici, et qui est assurément rempli de qualités, rempli de grâces, et rempli d'un tas de talents, ne peut quand même pas être comparé à ton Père céleste. Dieu est incomparable. Alors Jésus nous disait, lorsque tu vas prier, dis notre Père qui es aux cieux, c'était pour qu'on fasse la distinction entre ce Père céleste et l'ensemble des pères terrestres, l'ensemble des pères qui sont ici-bas sur terre, et que si on a eu une mauvaise expérience ou si on a connu les limitations et les limites de nos pères célestes, qu'on ne considère pas que notre père de notre père terrestre, qu'on ne considère pas que notre père céleste est soumis aux mêmes limitations. Ton père céleste est effectivement le plus fort. Ton père céleste est effectivement le plus grand. Ton père céleste est effectivement le plus sage. Donc ton père céleste est aussi ton meilleur protecteur. Donc ton créateur, tu retournes à lui. Tu retournes à ton protecteur le plus fort. La Bible va nous dire qu'il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur nous. Et de surcroît à ça, il est ce que je dirais notre concepteur ou notre penseur. Il a une pensée pour toi. Dieu a un objectif pour toi. Dieu a une raison d'être pour ta vie. Et pour connaître cette raison d'être, il faut encore s'approcher de lui. Et pour vivre avec ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment que plusieurs redoutent de ne pas avoir au dernier souffle qui leur sera accordé. Certaines personnes arrivent vers la fin de leur parcours et se demandent, mais pourquoi je suis passé ici bas? Est-ce que ma vie a servi à quelque chose? Alors que l'apôtre Paul, lorsque lui va arriver vers la fin de son parcours, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la course, et maintenant la couronne de vie m'est accordée. Donc il a ce sentiment d'avoir fait ce qu'il peut faire. Et ce sentiment d'accomplissement, foncièrement, ne vient que si tu accomplis le plan pour lequel tu as été créé. Tu n'es pas, et je le répète, le fruit du hasard, le fruit des circonstances, tu es les fruits de la pensée de Dieu. Dieu te voulait, Dieu voulait se servir de toi, Dieu voulait t'utiliser, Dieu avait un plan pour toi. Et ce plan-là, si tu l'accomplis, va faire en sorte que tu as ce sentiment d'accomplissement et de paix et de réalisation que tu ne peux pas avoir autrement que dans la présence, dans la communion avec ton Père. Quatrième point, pourquoi cette destination du Père céleste est si importante, c'est que il est ton premier supporter. Je me rappelle certaines parties de rugby, puis là je sais que mon père, là où il est actuellement, il a déjà commencé à sortir le Kleenex. C'est un Italien d'origine, donc mon père a les larmes faciles. Donc je sais que là il a déjà le moton dans la gorge, mais c'est de bonne guerre. Je me rappelle quand mon père venait à mes parties de rugby. Je me rappelle une partie en particulier. où notre école jouait contre un club qui nous visitait d'Angleterre. Et ça, c'était en France, bien sûr. Et puis, vous savez, la rivalité qu'il y a toujours eu entre les Français et les Anglais, c'est pas juste une question du Québec, mais une question même de l'Hexagone, de la France, où lorsqu'on joue contre les British, on y donne un peu plus d'entrain, on est un peu plus motivé. Et là, cette équipe était venue nous voir et on était la dernière équipe qu'ils allaient affronter avant de retourner dans leur pays, en Grande-Bretagne, et ils avaient gagné tous leurs matchs et ils avaient défoncé toutes les équipes. Et je me rappelle que ce jour-là, c'était particulièrement difficile. Et il y a certaines phases de jeu que je vais vous soustraire parce que c'est des matchs de rugby, puis il y a des choses qui se passent dans les matchs de rugby. Mais à un moment donné, mon père a cru que j'avais trouvé mon géant, mon Goliath. Puis finalement, la situation s'est renversée, puis j'ai fait quelques phases de jeu intéressantes. Mais mon père était fier de moi et il parlait de l'événement, il le racontait avec encore plus d'émotion, puis encore plus de détails parce que lui, il le voyait au loin. Puis ce que je me rappelle, c'est qu'à cette époque-là, on avait ou sur ce match-là, on avait des amis qui nous visitaient de Suisse, de Genève, et qui étaient venus assister au match aussi ce samedi matin-là. Et mon père était tout fier devant ses amis suisses qui regardaient le match et qui voyaient son fils qui s'en tirait pas trop mal. Mon père était fier de moi. Mais malgré toute la fierté que mon père peut encore avoir aujourd'hui de ma petite personne, mon premier supporter était Dieu. Regardez ce que Dieu va dire à Jérémie lorsqu'il appelle Jérémie. Il dit, avant même que tu ne sois, je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant même que tu sois, je t'avais déjà établi prophète des nations. Puis il dit, regarde, ils vont te faire la guerre, ils vont te malmener, mais ils ne te vaincront pas. Donc le premier supporter de Jérémie, c'était l'Éternel. Avant même que Jérémie soit conçu, avant même que Jérémie soit pensé, son premier supporter, c'était Dieu. Ton premier supporter est aussi Dieu. Avant même qu'il t'ait conçu, avant même que tu aies été conçu dans le sein de ta mère, il avait déjà des plans de réussite pour toi, des projets de bonheur, des projets de réussite pour ta vie. Il avait un plan dans lequel tu fonctionnais et tu arrivais à la victoire. Alors, quand tu retournes vers ton Père céleste, tu es en train de retourner vers ton premier supporter. Et ce premier supporter est tellement important, on veut tellement le rendre fier, puis on est tellement heureux lorsqu'il nous regarde, puis on voit le sourire, puis on entend les applaudissements, ou on entend les petits cris qui nous supportent sur le côté du terrain. Mon père l'a fait pour moi, mais mon père céleste le fait encore aujourd'hui. Mon père le fait encore aujourd'hui, mon père naturel. Mais mon père céleste le fait encore aujourd'hui et ton Père céleste le fait encore aujourd'hui pour toi. Depuis le moment où tu as commencé ce chemin de retour vers la maison, il est en train d'applaudir et la Bible nous dit qu'au ciel, il y a une fête pour un pécheur qui se repent. Ça veut dire que non seulement Dieu est en train de t'applaudir et de t'encourager et te dire ne lâche pas mon fils, ne lâche pas ma fille, mais le ciel entier, les archanges, les séraphins, les anges sont en train d'acclamer et ils sont en train de dire ne lâche pas mon ami, ne lâche pas, continue. Ton premier supporter est en train de te faire la fête. Et enfin, ton Père céleste est aussi ton premier amour. Ton Père céleste est le premier qui t'a aimé. Ton père et ta mère assurément t'ont certainement aimé, profondément aimé. Assurément, tes parents auraient donné tout ce qu'ils avaient pour toi. Et pour la plupart d'entre nous, c'est le genre de parents, effectivement, que nous avons eu, qui étaient prêts à se sacrifier pour nous. Ton Dieu l'a fait de façon encore plus marquante. Avant même que tu reviennes à lui, ton Dieu t'avait aimé. Avant même que tu sois créé, ton Dieu t'avait aimé. Et la Bible nous dit qu'avant même qu'on soit, il avait suscité pour nous une voie de salut à travers la mort de Jésus. Dieu te supporte, Dieu t'appuie, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'a toujours aimé. Et parce qu'il savait que sans la mort de Jésus, tu serais, toi et moi, on serait destinés à la condamnation pour l'éternité. Pour nous éviter cette condamnation, il a donné son Fils unique, afin que toi et moi, qui croyons en lui, on puisse avoir la vie éternelle. Ça, c'est parce qu'il t'aimait. Ça, c'est parce qu'il m'aimait et qu'il avait envie de nous avoir pour l'éternité à ses côtés. Donc, quand tu retournes à Dieu, tu retournes vers celui qui t'a aimé d'un amour sans faille, d'un amour qui n'a pas de mesure. Le terme, c'est incommensurable, qui est au-delà des mesures que tu ne peux pas quantifier, tellement son amour est grand. Et quand tu retournes vers ce Père céleste, quand tu rentres vers la maison, ben, tu retournes à cet amour de Dieu à ton égard. Alors je te prie, mon ami, ton Créateur t'attend. Ton premier et ton plus fort protecteur t'attend. Ton concepteur, celui qui pense à toi, t'attend. Ton premier supporter, celui qui est en train d'acclamer tes premiers pas, il t'attend. Et celui qui t'a aimé en premier, celui qui t'a toujours aimé, et celui qui a accepté de se sacrifier pleinement et totalement pour toi, il t'attend aussi. Et foncièrement, nous qui faisons partie de la famille de Dieu, ben, on t'attend aussi. Alors, ne lâche pas le chemin. C'est le bon chemin. C'est le seul chemin. Continue. On va prier pour terminer ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes. Et tu as tracé devant nous, Seigneur, un chemin qui n'est pas toujours facile, qui a parfois des embûches, mais nous savons, c'est le seul et l'unique chemin qui est bon, celui qui nous mène à notre Père céleste. Seigneur, tu nous as créés, tu as pensé à nous de toute éternité, tu avais des plans et des projets pour nous. Seigneur, tu es notre protecteur, celui qui veille et qui ne sommeille aucunement en veillant en nous. Seigneur, tu avais des plans et des projets, et je comprends, Seigneur, que le seul moyen d'être accompli, c'est effectivement, Seigneur, d'avoir pu mettre l'épaule à la roue et accomplir, Seigneur, le mandat pour lequel tu nous as créés. Merci, Seigneur, parce que tu es notre plus fervent et notre tout premier supporter. Tu avais espoir en nous et tu as espoir en nous. Tu as mis, Seigneur, ton regard sur nous et tu jubiles, Seigneur, simplement à l'idée que nous progressions devant toi. Si on t'a fait attendre un peu, si on t'a même fait attendre longtemps, et si pendant un certain temps on a même déshonoré ton regard, nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Et nous savons, Seigneur, que tu nous soutiens dans ce chemin vers la maison. Alors merci, Seigneur. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, pour mon ami qui nous écoute ce matin, que ta grâce leur soit accordée et qu'ils puissent, Seigneur, se réjouir de savoir que ton regard est posé sur eux et que tu es leur plus fervent supporter. Tu es le fan par excellence dans leur vie. Et tu les aimes, qu'ils puissent sentir ta grâce les entourer. Je les bénis en ton nom ce matin. Amen. Alors, permettez-moi juste de saluer quelques personnes qui se sont peut-être jointes à nous ce matin. Juste voir qui s'est connecté depuis tout à l'heure. Donc, je pense que la dernière personne que j'ai saluée, c'était la sœur Nancy. Je la salue encore. Une fois, si ce n'était pas fait. Alex, Dieu te bénisse. Le bonjour à Sandra, s'il est à tes côtés. Daniel Long, Dieu vous bénisse. Content de vous avoir parmi nous ce matin. Gloria, on l'a déjà salué, même en morée. Maggie, Dieu vous bénisse. Content de vous avoir. Rosie, de l'Alsace, bonjour. Adriana, Dieu vous bénisse. Nanji, Dieu te bénisse. Linda, sois bénie. Martha Lucia, soyez bénie. Denise, on l'a déjà salué. Désolé pour le son qui aurait coupé. 3 secondes. J'espère que tout est bien revenu. Bonjour Thérèse, content de t'avoir. Je croyais que tu n'étais pas avec nous ce matin. Donc, sois bénie. Bonjour à Farley et à sa maman aussi. Le score à la fin du match, on a gagné. On a gagné, ça a été serré. Je pense que c'était quelque chose comme 14 à 7. Et au rugby, c'est quand même assez serré. Mais on a gagné. Ouais, on a gagné. On était même dans le journal local. J'ai une photo quelque part de cet article de journal. Donc, ouais, on a gagné. Notre coach était très fier. Nos parents étaient très fiers. Et nous étions tous aussi très fiers. Donc, ouais, on a gagné. Merci d'avoir demandé, Ramon. Ouais, j'en suis encore fier aujourd'hui. C'était vraiment un bon match. Mon match de rugby préféré. Ouais, ouais, ouais. Ah là là, merci Ramon. est-ce qu'il y a d'autres personnes? Maria Naeva, je ne sais pas si je vous avais salué, mais je le fais encore. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, je suis content d'avoir été avec vous ce matin. Je suis content de ceux qui sont en train de faire ce cheminement vers le Seigneur. Plus j'y pense, je partage là-dessus avec mes collègues depuis une semaine où j'ai dit, regardez, il y a des gens qui sont en train de se tourner à Dieu à travers ce qu'on fait dans même à distance. Donc, on est content de vous avoir. N'oubliez pas, quand les portes vont s'ouvrir pour tous, faut venir. Pour l'instant, les portes sont limitées. Pour environ 35 personnes, quand on calcule l'équipe technique que ça nous prend, mais 35 personnes, et on rappelle d'appeler sur le répondeur de l'Église. Donc, si vous avez 55 ans et plus et que vous êtes célibataire, donc 55 ans et plus célibataire, vous avez le droit de vous inscrire. Et puis, si vous avez 65 ans et plus, vous êtes en couple, vous avez le droit de vous inscrire. Pourquoi ces personnes? Parce qu'on pense que ce sont celles qui ont souffert le plus du confinement et on veut les honorer en premier lieu. Mais lorsque le gouvernement va nous permettre d'élargir un peu, on va élargir les choses. Quelqu'un me demandait, puisqu'on a mis des restrictions au niveau du contact avec ceux qui ont été en contact avec des personnes atteintes du COVID et qui présenteraient des signes grippaux, est-ce que ça veut dire donc que les travailleurs de la santé n'ont pas le droit de venir? Je ne le sais pas encore. On est en train de se renseigner directement avec la santé publique. Donc, dès que j'ai des nouvelles, on vous les donne. Mais pour l'instant, on va juste s'abstenir. De toute manière, la plupart des cas qui sont en conflit comme ça seraient avec la jeunesse, puis la jeunesse ne se réunira pas dans l'église avant, pas ce vendredi, mais l'autre après. Donc, pour l'instant, vous êtes réglo, vous continuez à nous suivre sur Internet. Sinon, 55 ans et plus, si vous ne travaillez pas dans le service de la santé, inscrivez-vous au numéro de l'église 2738295 dans le 514. Donc, 514-273-8295. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et on doit vous rappeler. Avant que vous ne vous présentiez, on doit vous rappeler au moins vendredi pour vous confirmer votre présence. Donc, sur ce, on se revoit donc demain matin pour notre bénédiction matinale. Je vous l'ai dit, même si c'est la Saint-Jean, je serai présent pour cette bénédiction matinale. Soyez là, 8h30, en pyjama, ou déjà prêt à aller faire votre jogging, ou rentrant de votre jogging, café à la main, jus d'orange, peu importe. Moi, j'ai encore mon café que je dois terminer, donc je vais m'apprêter à le faire. Donc, 8h30 demain, bénédiction matinale, d'ici là. Que Dieu vous bénisse, ayez une bonne journée dans la présence de Dieu. Et n'oubliez pas, pour ceux qui doivent s'inscrire pour être présents dimanche, vous appelez sur la boîte vocale de l'Église. Que Dieu vous bénisse et à demain matin. Au revoir tout le monde.